les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie reçoit aujourd'hui Éric Denimal. Éric Denimal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, conférencier, pasteur. Vous avez fait des études en théologie protestante,
oui.
Animé des émissions dans le cadre de Radio Évangile. Vous êtes consacré ensuite à la réinsertion de personnes en difficulté qui se trouvaient dans le nord de la France.
Oui, en effet, du côté de Dunkerque, oui.
Pasteur, vous avez été chargé de la communication de l'Alliance évangélique française. Et vous êtes donc également l'ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le Christianisme au XXe siècle. Et vous dirigez aujourd'hui les éditions LLB, Ligue pour la lecture de la Bible, ou c'est terminé ?
Non, ça s'est terminé aussi. Donc maintenant, je suis pleinement à Nîmes en tant que pasteur, avec un poste qui est déjà assez chargé. Et puis, de temps en temps, j'écris un livre.
Voilà. Donc, aux éditions First, vous avez publié votre ouvrage « La Bible pour les nuls », qui a connu un joli succès de librairie, puisqu'il s'est déjà vendu à plus de 70 000 exemplaires.
Oui.
Et Canal Académie vous a consacré
Tout
une émission.
Fait. Je vous en remercie.
Alors, donc, pour ce mot de la foi protestante, vous avez choisi le mot « évangélisation ». Pour faire face au mot prosélytisme, expliquez-nous pourquoi cette envie d'aborder avec nous aujourd'hui ce mot évangélisation.
Il me semble que c'est un mot qui est presque un gros mot aujourd'hui. C'est comme le mot prosélytisme. Hein. Je dirais prosélytisme, c'est encore un plus gros mot, dirait-on. Et du coup, on est un peu embarrassé parce que le chrétien aime transmettre sa foi. Pas simplement dans le cadre de sa famille, etc., auprès de ses enfants ou dans ses cercles, mais même il a mission, en tant que chrétien, il a mission de diffuser. Hein. Jésus a dit à la fin de son ministère à ses disciples, eh bien maintenant, allez par le monde, évangéliser, transmettre la bonne nouvelle. Bonne nouvelle et évangéliser, c'est la même chose. Et du coup, ce judaïsme qui était avant, si j'ose dire, avant Jésus-Christ, une religion qui touchait un peuple, particulièrement un peuple, le peuple élu, explose, le message explose, va plus loin. Et Jésus dit maintenant, allez au-delà de Jérusalem, au-delà de la Judée, jusqu'aux extrémités du monde. Ce qui fait que le message de Jésus-Christ, donc l'évangile,
devient un message
devient
universel.
Voilà, devient non seulement universel, mais conquérant. Et la particularité du christianisme, c'est, comme l'islam d'ailleurs, c'est que ce sont deux religions qui sont relativement conquérantes. Le mot est un peu difficile à utiliser.
Le mot est fort.
Le mot est fort,
conquérant.
Oui. Mais dans le
conquête.
Sens, dans le sens transmettre et puis faire des disciples. Faire des disciples, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire dans la bouche de Jésus. Il faudrait qu'on puisse revenir en arrière dans la machine à remonter le temps pour aller lui poser quelques questions, pour l'interviewer. Il serait bien à ce micro d'ailleurs. Mais pour dire, mais qu'est-ce que vous entendez quand vous dites « faites des disciples », ça veut dire quoi? Ça veut dire « faites des adeptes », ça veut dire « convertissez ». Tous ces mots-là sont difficiles. Et on parle de campagne d'évangélisation, comme on parle d'une campagne militaire. Vous voyez, c'est quand même assez fort comme langage. C'est la raison pour laquelle je parle de religion conquérante. Et si aujourd'hui le christianisme est un peu moins conquérant, c'est un peu moins évangélisateur, cherchant des adeptes, c'est parce qu'il est dans des sociétés où on a un peu relégué la foi dans le domaine du privé. Par contre, on voit qu'une autre religion, qui est elle aussi conquérante, a un ton un peu différent aujourd'hui. Et du coup, il y a parfois des tensions, des oppositions. Et parce qu'il y a une religion qui est relativement conquérante, toujours avec des guillemets, c'est difficile parce qu'à la radio, on ne les voit pas. Mais parce qu'il y a une religion aujourd'hui qui est assez conquérante, on a peur de toute tentative d'évangélisation, de prosélytisme, etc. Ce qui fait que le chrétien voudrait bien transmettre sa foi sans qu'on l'accuse d'être un prosélyte, sans qu'on l'accuse d'être un conquérant, sans qu'on l'accuse d'être un convertisseur. En même temps, il sait que reléguer la foi dans le domaine privé, c'est restreindre l'influence que peut avoir la foi sur à la fois la personne, mais aussi sur la société, la vie de la société, etc. etc.
Éric Denimal, est-ce que vous êtes d'accord en tant que pasteur avec la traduction de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20 ? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et dans le chapitre 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Donc on voit le développement universel de ce message, son installation dans le monde et auprès de toutes les nations. Mais alors, c'est une parole qui doit être apportée, donc c'est « enseignez-leur ». Donc on enseigne par la parole.
Oui.
Revenez sur ce mot de conquête. Alors, où commence l'évangélisation? Où est-ce qu'elle s'arrête? Où commence le prosélytisme? Et où est-ce qu'il continue, se poursuit, se développe, s'enfle et finit par s'arrêter, mais souvent avec des larmes, des pleurs, des guerres?
Oui, c'est ça qui est, difficile. Il me semble que quand on regarde de quelle façon Jésus-Christ lui-même a transmis, de quelle façon lui, il a aussi évangélisé, en quelque sorte, puisqu'il a annoncé la bonne nouvelle, on remarque que c'est apporter la parole, ce n'est pas chercher nécessairement à convaincre d'une façon oppressante, hein. Ce n'est pas non plus en obligeant les personnes à se convertir, comme ça a pu être le cas dans l'histoire, hein. Il y a eu des rois qui se sont convertis, qui ont obligé tous leurs sujets à en faire autant, et parfois, s'ils ne le faisaient pas, il fallait choisir entre la foi qu'ils proposaient et le bûcher. Alors c'est sûr que le taux de conversion à ce moment-là était assez considérable, et on comprend pourquoi. Mais donc je suis d'accord pour dire, effectivement, il faut, à la façon de Jésus, transmettre le message, essayer de montrer que c'est véritablement la meilleure de toutes les voies. Mais en même temps...
Ça semble d'une logique tellement imparable.
Oui,
comment est-ce qu'on a pu commettre tant de bévues contresens au cours
pas,
de l'histoire?
Je ne suis pas sûr qu'on soit plus intelligent aujourd'hui. Hein, donc, je ne pense pas que ce soit une
question d'intelligence. Non, mais il y a un message qui est donné, il est clair.
Mais c'est parce qu'il me semble-t-il, quand on est dépositaire d'un message, automatiquement, et surtout quand on a une mission d'aller le transmettre, automatiquement, on a tendance à se placer comme celui qui enseigne, donc le maître, donc celui qui est au-dessus. Et les autres doivent écouter, doivent accepter, doivent se plier. Et donc, il y a une tentation extraordinaire de prendre un pouvoir sur ceux à qui on apporte quelque chose. Puisque en plus, si on apporte, c'est que nous, on a et que les autres n'ont pas. Donc, il y a automatiquement une position instinctive de pouvoir et la tentation énorme à laquelle l'homme succombe très volontiers, c'est de prendre le pouvoir pour l'exercer sur les autres. Et du coup, le message qui devait être un message de libération, qui devait être un message d'amour, un message d'égalité, etc., est devenu un message d'oppression, un message dont les dépositaires ont voulu garder la force, le pouvoir, l'autorité. Et de l'autorité à l'autoritaire, il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. La cloison est très mince. Et si, dans son histoire, le christianisme, qui est responsable quand même de pas mal de guerres, y compris en son sein, si le christianisme aujourd'hui s'est un petit peu adouci, on se rend compte qu'une religion qui est née à peu près 600 ans plus tard a à peu près 600 ans de retard sur l'histoire que nous avons nous-mêmes eue. C'est-à-dire que si nous regardons où nous en étions 600 ans en arrière, on se rend compte qu'on est en pleine période de la réforme et de guerre de religion. Donc vous voyez, il faut du temps pour que l'on puisse comprendre que le message dont on est dépositaire, qui peut être un message de paix, et les religions sont toutes porteuses de messages de paix, quand cette paix n'est pas trafiquée et quand les messagers ne sont pas devenus des dictateurs, alors on sait que ce message doit être accepté. Mais, encore une fois, dans l'écoute, et la particularité de l'évangile, me semble-t-il, c'est qu'il peut être vrai différemment dans différentes cultures, mais il reste vrai. Parce que l'évangile a cette possibilité, cette capacité de s'emboîter, si j'ose dire, dans une culture, de transformer aussi un petit peu cette culture, sans pour autant dénaturer cette culture. Ça, c'est, je ne sais pas si c'est tout à fait ce que disait Chateaubriand, mais c'est quand même le génie du christianisme.
Pour terminer, Éric Denis Malle, puisque ce mot évangélisation, nous le plaçons tous les deux dans un contexte protestant, puisqu'il s'agit des mots du protestantisme, par rapport à l'ensemble de toutes les familles qui composent le protestantisme aujourd'hui en 2010, ne voit-on pas des familles protestantes qui se distingueraient aujourd'hui justement par ce souci d'évangélisation en tombant peut-être dans une optique prosélyte plus importante que d'autres?
Oui, tout à fait, mais ça c'est vrai. Il y a peut-être un courant du protestantisme qui est un peu trop timide, qui vit sur son passé plutôt que de se souvenir que lorsqu'il a été performant, c'est qu'il avait de l'audace et qu'il allait de l'avant. Ça, c'est un protestantisme qui devrait redevenir un petit peu évangélique. Et puis, il y a une mouvance évangélique qui, elle, peut avoir une certaine agressivité dans sa façon de transmettre le message, qui du coup transforme cette annonce en pression, avec le sentiment d'urgence, il faut absolument aujourd'hui...
C'est un peu la pression millénariste, on a la bonne parole et on veut en faire profiter l'autre.
Maintenant, c'est parce que c'est l'occasion ou jamais, parce que demain peut-être vous n'aurez plus jamais cette occasion, en plus demain il n'y en aura peut-être pas, donc il y a toutes sortes de messages évangéliques qui se calquent sur des messages apocalyptiques, et là, là il y a instrumentalisation de la parole, instrumentalisation du message et pression sur la personne et sur l'émotion.
Parce que ça engendre de la peur.
Bien sûr.
Une urgence.
Alors, on joue à la fois sur la peur et sur la grande dimension sentimentale. On joue sur ces deux pôles-là, on passe du chaud au froid et du coup, on déstabilise, alors que le message de l'Évangile est un message qui apporte la sérénité. Et en plus de cela, enfin, je ne sais pas, quand on lit l'Évangile, quand on est évangélique, qu'on est évangélisateur, entre guillemets, donc on connaît le texte, on sait très bien que ce que Dieu a commencé dans le cœur de l'un, il le poursuivra. Donc, il n'y a pas besoin de faire une pression terrible, comme si nous étions l'élément qui permet à la personne de se convertir ou pas, alors que le Seigneur est assez grand pour mettre sur le chemin des hommes des petits cailloux qui permettent de conduire à la destination qui sera la meilleure, comme les petits cailloux du petit poussé. Le problème, c'est qu'il y a certains évangéliques qui n'utilisent pas des petits cailloux, mais qui utilisent de gros pavés.
Éric de Nimal, merci de votre intervention. À bientôt.